Vous êtes sur RTL. RTL Midi.
Le 12-30 avec Agnès Bonfillon.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Finalement, les jauges ne s'appliqueront pas pour les foires et les salons. 2000 personnes maximum en intérieur, 5000 en plein air. La dérogation vaut également pour les zoos et les parcs d'attractions. Une chose est sûre, le port du masque, lui, redevient obligatoire partout en extérieur demain, dans plusieurs grandes villes, dont Paris. Des prix complètement délirants. Un service après-vente inexistant. 60 millions de consommateurs viennent de décerner ces cactus 2021. Des trophées qui récompensent les pires pratiques commerciales de l'année. Et effectivement, vous l'entendrez, ça pique. Et puis nous parlerons d'Anéantir. Le prochain roman de Michel Houellebecq n'est pas encore sorti. Mais comme souvent, il fait déjà beaucoup parler. La question du jour sur RTL.fr. Allez-vous vous faire tester avant le réveillon? Vous dites oui à 19% à peine et non à 77%. On attend vos réactions, évidemment, vous le savez, au 3210. Vous pouvez prendre la parole sur tous les sujets. La météo, Peggy Broche, bonjour.
Bonjour Agnès.
Enfin, une bonne nouvelle, quelques éclaircies possibles au nord cet après-midi.
Et oui, finalement, les nuages vont se morceler. C'était pas prévu, mais ça fait du bien. Ils vont laisser passer quelques éclaircies. Alors, sauf entre les frontières du nord et du nord-est où le ciel reste couvert avec quelques gouttes. Et dans le sud, bah, c'est du beau temps. Il n'y a plus de vigilance orange avalanche, mais le risque est encore élevé sur les Alpes, donc prudence. Et l'Ain reste en vigilance orange cru. Tout ça sous des températures encore très douces, de 13 à 16 degrés au nord et de 14 à 22 au sud.
Merci beaucoup, Peggy. À tout à l'heure, 13h pour une météo complète.
RTL Midi.
Quand l'appétit va, tout va. Pour contrer la morosité ambiante, l'art de se faire plaisir à table est, semble-t-il, la solution la plus plébiscitée en cette fin d'année. Alors, des réveillons avec moins de monde, peut-être, mais avec des mets un peu plus exceptionnels que d'habitude. Vous avez pu le constater ce matin, Bertrand Frachon, en vous rendant aux Halles Paul Bocuse, temple de la gastronomie lyonnaise.
Du plaisir et du réconfort en cette période compliquée, c'est ce que les Lyonnais viennent chercher avant tout aux Halles Paul Bocuse pour le réveillon.
La qualité des produits effectivement est essentielle, indispensable. On se retrouve à quatre autour de belles assiettes, on va y mettre le prix et puis on va se faire plaisir, c'est sûr. Et ce qui va arriver dans l'assiette, forcément c'est un élément déclencheur de positive attitude, clairement quoi.
Faut se faire du bien, parce que pour se remonter le moral, après encore une année bien délicate, à chaque vitrine donne envie, on a envie de tout manger ici. C'est que des bons produits, après on est sur des produits de la mer essentiellement, parce que c'est des choses qu'on ne mange pas au cours de l'année.
Le fromager Hilaire Sellerier estime avoir bien travaillé pour ses fêtes, confirmant la tendance suivante.
Moins mais mieux, c'est l'ADN qu'on a au Halles, c'est-à-dire qu'on a une sorte de niche, aller chercher les plus petits producteurs, les petits faiseurs pour avoir la meilleure qualité et essayer d'apporter le meilleur prix à nos clients. Alors nous, notre spécialité, c'est le Saint-Marcelin à la truffe, tout ce qui est à base de truffe, et puis après sinon on a des petites pièces fétiches comme comté de garde 36 mois ou voilà, ce genre de fromage assez compliqué à trouver.
Et même si le masque empêche un peu de profiter des bonnes odeurs, rien que pour le plaisir des yeux, les Halles tiennent leurs promesses.
Le reportage de Bertrand Frachon qui sait nous faire rêver hein, à Lyon pour RTL. Et vous, avez-vous décidé de vous faire davantage plaisir cette année en achetant des plats et des vins d'exception? Dites-nous tout au 3210. Florence et Colin attendent vos appels. Alors depuis lundi, nous étions restés sur les jauges à 2000 personnes en intérieur maximum, 5000 en extérieur, ce qui a causé d'ailleurs l'annulation de festivals, de concerts. Mais ce matin, une précision qui rime parfois avec confusion pour pas mal d'entre nous. On compte sur vous pour nous éclairer. Aurélie Herbemont, bonjour à vous.
Bonjour.
Jean-Baptiste Lemoyne, chargé des petites et moyennes entreprises. Le ministre nous dit que les salons, les foires, mais aussi les parcs d'attractions ne sont pas concernés par les jauges.
Alors, je vais effectivement essayer de vous éclairer sur les 50 nuances de jauge. Si les foires, salons et parcs d'attractions ont une dérogation, c'est parce qu'à la différence d'une salle de concert ou d'un stade, on y circule, on n'est pas statique, donc pas de jauge pour une foire au vin, un salon du chocolat ou le Futuroscope. Attention, subtilité dans un parc d'attractions, pas de jauge quand vous déambulez dans le parc, mais jauge à 2000 si vous assistez à une projection en intérieur dans l'enceinte du parc. Le diable se cache toujours dans les détails.
C'est quand même un petit peu la cacophonie, non, au sein de la majorité, Aurélie. Il y a également des retouches, par exemple, pour les salles de concert ou les stades.
Oui, un député En Marche, Sacha Houlier, a fait adopter en commission hier un amendement qui permet de déroger aux jauges 2000-5000. Ça instaure une jauge proportionnelle à la capacité d'accueil du stade ou de la salle de spectacle. Amendement voté contre contre l'avis du gouvernement. Mais ça ne veut pas dire que c'est gravé dans le marbre. Non, le texte sera examiné dans l'hémicycle lundi par l'ensemble des députés. Et le gouvernement devrait redire que ce n'est pas une bonne idée de proportionner. D'abord, c'est un casse-tête pour calculer les mètres carrés. Et puis, un exemple théorique, le Stade de France. Si vous mettez 20 000 personnes au lieu des 80 000 possibles et des 5 000 recommandés, eh bien, ça veut dire que vous avez 20 000 personnes dans les transports, puis dans les restaurants et les bars autour. Vous augmentez donc la circulation du virus. Suite au prochain épisode lundi, c'est là qu'on verra si les députés entendent ou pas les arguments du gouvernement.
Évidemment, on vous retrouve au prochain épisode, Aurélie Herbemont du service politique de RTL. Merci à vous. Certaines villes avaient déjà restauré l'obligation du port du masque en extérieur. Dès demain, les Parisiens devront à nouveau être équipés dans la rue, au risque d'écoper d'une amende, toujours de 135 euros. Alors comment cette annonce est-elle reçue dans la capitale ? Des avis très partagés, écoutez.
Je pense que ça n'a aucune utilité, que c'est vraiment une peine de porter ce masque. C'est gênant. Et médicalement, je pense que ça n'apporte rien. Donc je préconise de ne pas le porter dans la rue.
Pourtant, voilà. Vous le portez là.
Pourtant, nous le portons parce que nous sortons d'un magasin et nous avons oublié de l'enlever. Et nous rentrons dans un autre magasin, donc voilà.
Moi, mais, personnellement, je trouve que c'est utile.
Lui pense que c'est utile. Moi, je pense que ça ne l'est pas vraiment. Voilà.
Parce qu'avec la remontée de l'épidémie et le nouveau variant, moi, je trouve que c'est utile. Il faut protéger les personnes âgées. Et puis voilà, je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas contredire les gouvernements et les médecins qui travaillent avec eux.
Est-ce que vous pensez que ça a une utilité, vous, monsieur, de le porter en extérieur ?
Ça m'emmerde. Mais je le porte. Là, je ne l'ai pas, je suis en train de fumer. Mais bon, sinon, je le porte.
Pour vous protéger et protéger les autres.
Surtout moi.
Des propos recueillis par Gauthier Delon-Bugard pour RTL. Porter le masque en extérieur, certes, mais doit-on se contenter du masque chirurgical ? Ne faudrait-il pas passer au FFP2 ? Si oui, y a-t-il assez de stock ? On en parle dans une dizaine de minutes avec Christian Curel, le président des syndicats des fabricants français de masques. Et on en parle également avec vous, si vous le souhaitez, au 3210, évidemment. Demain, retour du masque en extérieur à Paris, on en parlait, mais d'autres mesures vont s'appliquer spécifiquement à ce 31 décembre. Encore une fois, la nuit de la Saint-Sylvestre sera particulière, Guillaume Chiez.
Oui, avec deux autres mesures, outre le port du masque, qui ont été prises par la préfecture de police. La fermeture de tous les bars à 2h du matin et l'interdiction de se rassembler sur les trottoirs pour consommer de l'alcool sous peine d'une amende de 135 euros dans la capitale. Et en petite couronne, ce sont 9000 policiers qui seront mobilisés pour faire respecter ces règles.
Et restrictions dans pas mal de villes de France, hein, au final, Guillaume.
Oui, un peu partout, les préfets et les maires ont pris des dispositions pour suivre les consignes du gouvernement. La plus importante, peut-être, c'est d'interdire la danse dans les bars et restaurants pour ne pas faire concurrence aux boîtes de nuit qui devront rester fermées. D'autres villes ont également choisi d'aller plus loin en instaurant un couvre-feu. Et c'est le cas à Strasbourg, par exemple, où les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés d'un adulte devront rester chez eux à partir de 22h. Pareil à Compiègne, dans l'Oise. Et là, l'objectif assumé est double. Sanitaire, certes, mais aussi pour éviter tout trouble à l'ordre public.
Merci beaucoup pour ces précisions, Guillaume Chiez. 12h38 sur RTL. Une amende pouvant aller jusqu'à 1000 euros par salarié avec un plafond maximum de 50 000 euros. Les risques sont désormais très concrets pour les entreprises qui ne joueront pas le jeu du télétravail à partir de lundi, annonce faite ce matin par Elisabeth Borne, la ministre du Travail. Ces mesures, ces entreprises doivent mettre en place, je vous rappelle, le distanciel 3 jours minimum par semaine quand c'est possible. C'est une obligation, Marie Guerrier, encore faut-il que les contrôles puissent suivre.
Et la ministre du Travail demande de revenir à un rythme mensuel de 5000 contrôles d'entreprise par mois. C'était la moyenne en 2020 et puis ça a baissé en 2021. Moins de 1000 contrôles par exemple en octobre. Ces contrôles peuvent porter exclusivement sur la mise en place du protocole sanitaire. Mais il est demandé aussi aux inspecteurs qui se déplacent dans une entreprise pour d'autres dossiers, eh bien, de vérifier aussi systématiquement les mesures prises pour lutter contre le risque de contamination et donc notamment la mise en œuvre du télétravail. Si les 3 jours de télétravail ne sont pas appliqués à partir de la semaine prochaine, alors que les tâches à effectuer sont télétravaillables, eh bien l'entreprise sera mise en demeure. Et il y aura un nouveau contrôle dans un bref délai pour voir si elle se soumet finalement à l'obligation. Si ce n'est pas le cas, ça pourra donc aller, vous l'avez dit, jusqu'à 1000 euros par salarié, une amende qui interviendra plus rapidement. Les parlementaires doivent voter un amendement pour transformer la sanction pénale en sanction administrative.
Et a-t-on des chiffres, Marie, sur les contrôles effectués depuis le début de la crise ?
Oui, alors Alors, entre mars 2020, le premier confinement, et janvier 2021, le ministère du Travail indique qu'il y a eu 64 000 contrôles qui ont donné lieu à 400 mises en demeure. Et dans 93% des cas, ces mises en demeure ont été suivies des faits. Ensuite, depuis janvier dernier, selon le premier syndicat des agents de l'inspection du travail, quelques 28 000 interventions ont été effectuées, donnant lieu à 110 mises en demeure, soit moins de 0,5% des entreprises qui n'entraient pas dans les clous.
Marie Guerrier du service économie et sociale de RTL. Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, se dit confiant sur l'adoption du pass vaccinal par les députés. Il était sur notre antenne ce matin. Après la validation du texte la nuit dernière en commission des lois, coup d'envoi des débats lundi prochain. Mais pour certains élus, l'ambiance est loin d'être sereine. Plusieurs d'entre eux ont reçu des menaces, des messages d'intimidation. Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, est revenu sur le sujet ce matin.
Ce qu'il nous faut commencer à regarder de près, c'est quelles sont au total les suites qui sont réellement données à ces dépôts de plaintes à répétition, combien d'individus ont été interpellés et quelles suites la justice donne. Il est des cas où des gens ont été interpellés, ont même pu reconnaître avoir mal agi, et on a parfois le sentiment, c'est en tout cas ce que certains députés remontent de leur territoire, qu'il n'y a pas de sanctions aussi rapides et immédiates que l'on pourrait l'espérer.
Richard Ferrand répondait à Stéphane Carpentier sur RTL ce matin.
RTL Midi.
12h41 sur RTL, Ghislaine Maxwell risque plusieurs dizaines d'années de prison. L'ex-compagne du milliardaire Jeffrey Epstein a été reconnue coupable de crimes sexuels par un tribunal de New York. Sachant que de nombreuses personnalités sont impliquées dans ce scandale, Ghislaine Maxwell pourrait avoir envie de donner des informations, précieuses informations, en échange d'une réduction de peine. Car c'est un système tentaculaire qui a duré pendant des années, Lionel Gendron.
Le système Epstein s'est effondré sous les témoignages de quatre jeunes femmes, adolescentes au moment des faits. Jane, Kate, Caroline et Annie Farmer, la seule à témoigner sans pseudonyme, ont raconté les relations sexuelles forcées, souvent en présence de Ghislaine Maxwell, qualifiée de Epstein numéro 2. Le procureur du tribunal de Manhattan a rendu hommage aux victimes.
Leur courage et leur volonté de faire face à leurs agresseurs ont rendu possible ce verdict.
Silencieuse pendant le procès, Ghislaine Maxwell va-t-elle le rester jusqu'à l'énoncé de sa peine? Elle risque jusqu'à 65 ans de prison. Pour son avocate, il y aura une suite.
Nous croyons fermement en l'innocence de Ghislaine. Nous commençons à travailler sur l'appel et nous sommes confiants. Ce n'est pas fini.
En échange d'une peine moins lourde, Ghislaine Maxwell parlera-t-elle du prince Andrew qui fait l'objet d'une plainte dans un autre volet de l'affaire Epstein ou bien de la longue liste d'invités aux soirées de l'ancien milliardaire comme les anciens présidents Bill Clinton et Donald Trump.
Lionel Gendron, le correspondant de RTL aux États-Unis. Sachez que l'on apprend que Antoine Griezmann a été testé positif au Covid. L'attaquant français de l'Atlético Madrid, évidemment, comme trois autres joueurs d'ailleurs. Et le Barça annonce de son côté trois nouveaux cas au sein de son effectif. Il y en a encore pas mal de cactus. 60 millions de consommateurs viennent de décerner le pire du pire de l'année 2021. Prix, service après-vente, bug. Depuis 5 ans, le magazine épingle les pires pratiques commerciales, en fait. Découvrons le nouveau palmarès avec vous, Anaïs Bouissou.
Alors, dans la catégorie cactus de la cupidité, j'ai nommé Interflora, pour leur bouquet tout petit, très cher et pour leur grosse marge sur les prix. 60 millions de consommateurs ont fait les calculs. Pour un bouquet à 82 euros, la marque Interflora empoche près de la moitié du prix. Le fleuriste qui travaille avec, lui, n'aura droit qu'à 44 euros. Le cactus du bug à tous les étages est remporté par Le Bon Coin, qui totalise un maximum de défaillances d'après 60 millions de consommateurs. Service client minimum, livraison pas toujours au point, galère en tout genre, des acheteurs comme des vendeurs s'emparent parler des arnaques. Vient ensuite le cactus de la pire pratique pour Red by SFR qui a tenté des augmentations de tarifs censées plus ou moins passer ni vu ni connu. Enfin, cactus d'or, le pire du pire, décerné aux industriels de la charcuterie. 60 millions souligne ici l'acharnement contre une application qui permet de noter la qualité des produits, l'application Yuka, attaquée de multiples fois en justice alors qu'elle dénonçait la présence d'additifs à risque pour la santé dans les charcuteries.
Palmarès détaillé par Anaïs Bouissou. Du Houellebecq, pur sucre d'après des spécialistes. Son 8e roman sort le 8 janvier prochain et déjà beaucoup de critiques dans la presse. Dans Anéantir, c'est le titre du livre, l'auteur fait l'oracle de notre époque. Précisément, l'année 2027, au terme d'un deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Écoutez Christophe Honneau, d'Ibio, directeur adjoint de la rédaction du Point, grand connaisseur de Houellebecq. Il a lu ce livre, c'est certain, dit-il, les fans de l'écrivain ne seront pas déçus.
Tout l'arsenal des obsessions de Houellebecq sont là, la maladie, le sexe évidemment. C'est moins provoque que soumission. C'est un Houellebecq plus heureux, plus apaisé. Il y a une chose très étrange dans le livre, et c'est aussi la nouveauté d'Anéantir, c'est qu'il y a une intrigue absolument formidable qui se met en place dès les premières pages. Une sorte de complot mondial avec des attentats qui frappent des sites industriels stratégiques, mais aussi des barques de migrants. Et en fait, il ne poursuit pas l'enquête. Comme si, au fond, il nous montrait qu'il peut faire un roman, thriller, d'espionnage, mais que ce n'était pas ce qui comptait. Donc, quand je dis optimiste, c'est que la France n'est plus en proie à une potentielle guerre civile. Économiquement, ça se passe plutôt bien, puisque le personnage principal, c'est le locataire de Bercy, qui s'appelle Bruno, comme Bruno Le Maire, mais qui s'appelle Bruno Juge, et que ce qui comptait vraiment dans Anéantir, c'est plutôt de montrer que pourvu qu'on puisse, comme il le dit, contempler la nature, être avec une femme aimante, lire des livres et bander, le mot bander revient, c'est vraiment je bande, donc je suis, et bien pourvu qu'on ait ces trois choses, au fond, tout va bien, même si la mort est la seule chose certaine. C'est-à-dire qu'un jour, voilà, nous serons anéantis.
Des propos recueillis par Monique Younes du service culture de RTL. Et puis restons justement dans le monde de la culture avec une excellente nouvelle. Malgré la situation actuelle, eh bien, les cinémas français ont réussi à attirer cette année 96 millions de spectateurs, une hausse de 47% par rapport à l'année 2020. Et vous, votre prochain modèle de masque? Eh bien, parlons-en. Nous allons en parler d'ailleurs sur ce masque-là. Est-ce qu'il faut passer, selon vous, au FFP2 en pleine vague Omicron? Nous allons demander son avis à Christian Curiel, président des syndicats des fabricants français de masques.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Agnès Bonfillon.
On s'informe de ce qui se passe et depuis quelques jours, on nous dit que le FFP2 est beaucoup plus protecteur. Donc c'est pour cette raison qu'on l'a mis.
Sécurité maximale.
Voilà. Par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, il faut augmenter d'un cran. Moi, je le garde à l'extérieur aussi. Non, mais c'est rassurant.
Je vois que vous avez deux masques.
Mais on ne se sent pas en sécurité dans les transports. Et ça, ce n'est pas normal. En fait, ce que je reproche, c'est qu'il n'y a pas assez de contrôle. Vous voyez, monsieur à côté, il n'a pas regardé son masque. On se sentirait déjà beaucoup plus protégé pour aller travailler.
Certains usagers du métro parisien rencontrés par Vincent Serrano n'ont pas attendu pour changer de masque, de modèle de masque. Alors doit-on faire pareil? Serait-on mieux protégé avec un FFP2 en pleine vague Omicron? Nous allons poser la question à un spécialiste. Bonjour Christian Curiel.
Oui, bonjour.
Vous êtes le président des syndicats des fabricants français de masques et directeur général de Prism. Alors doit-on, selon vous, nous conseillez-vous de changer de masque?
Alors selon moi, c'est effectivement extrêmement conseillé. C'est la solution pour se protéger, puisque le masque chirurgical ne protège que vers l'extérieur, alors que le masque FFP2 protège la personne qui le porte. Donc en l'occurrence, dans tout ce qui est milieu clos et zone à risque, comme les transports ou les zones où il peut y avoir des clusters, il est fortement conseillé de mettre plutôt un FFP2 pour se protéger, et je pense que ça devrait être quasiment indispensable pour les personnes à risque, pour les personnes qui sont partiellement vaccinées, pour celles qui sont non vaccinées ou pour celles qui ont leur vaccin depuis plus de 3 mois.
Alors vous nous le conseillez, Christian Curiel, mais y a-t-il assez de stock pour toute la population?
Alors, la filière française s'est structurée hein, sur depuis la mi-2020. Vous avez aujourd'hui entre 15 et 20 fabricants d'FFP2 avec une fabrication de au moins 20 millions de masques par semaine et donc il y a une possibilité également que cette production augmente en passant sur des rythmes comme les 3-8 ou les 5-8. Donc effectivement, je pense que si le masque FFP2 devient la norme pour certains types de lieux, la fabrication française suivra et permettra de fournir l'ensemble de ces masques.
Donc pour l'instant, vous nous dites, on n'a pas encore changé notre fusil d'épaule tout de suite, mais on peut remettre en place des cadences importantes dans très peu de temps.
Absolument, c'est-à-dire que la montée en charge peut être assez rapide, la capacité qui est non utilisée aujourd'hui est très importante, donc on peut déjà répondre à de la demande immédiate assez forte et au fur et à mesure monter en production, monter les rythmes de production en fonction de l'accroissement de la demande.
Oui, parce que pour l'heure, c'est vrai, hein, aucune consigne n'a été donnée de la part des autorités. Et en ce sens, on se souvient, il y a 2 ans, en tout début de pandémie, il y avait un problème de stock. D'où ma question, si on ne nous conseille pas les FFP2, est-ce tout simplement parce que pour l'instant, il n'y en a pas assez ou il faut les réserver au monde hospitalier ?
Je ne pense pas aujourd'hui, c'était le cas au tout début de la pandémie, puisqu'il n'y a pas de masque, donc les quelques-uns qu'il y avait, il fallait évidemment les directionner vers les personnes du monde médical qui soignaient les malades du Covid, puisque c'était eux qui étaient prioritaires. Mais aujourd'hui, je pense que la production peut concerner une grande partie, donc non seulement effectivement le milieu médical, ce qui est indispensable, mais aussi une grande partie de la population, notamment, comme je vous disais, les personnes à risque et les personnes non vaccinées ou vaccination partielle ou qui ont été vaccinées depuis longtemps.
La Grèce recommande le double masque, Christian Curel, 2 masques chirurgicaux superposés. C'est efficace ou pas ?
Alors, c'est sûrement plus efficace que d'en avoir un. Les États-Unis recommandent aussi un masque. Enfin, il y a certaines recommandations de faire un masque tissu plus un masque chirurgical. Bon, sincèrement, ça complique les choses par rapport à simplement faire un masque FFP2. Ouais. C'est-à-dire que ça marchera de toute façon beaucoup mieux d'avoir 2 masques que d'en avoir un. On est évidemment mieux protégé. Maintenant, je pense que 2 masques chirurgicaux ne permettent pas de protéger le porteur, puisque par définition, le masque chirurgical, son principe, c'est qu'il est ouvert. Et donc, à partir du moment où il est ouvert et que l'air passe, les microbes passent aussi. Donc, je pense pas que le fait d'avoir 1 masque ou 2 masques chirurgicaux protège le porteur, ce qui est par contre le cas du masque FFP2, à condition qu'il soit de bonne qualité.
Dernière petite question, Christian Curel. Le FFP2, le masque FFP2 est un peu plus cher quand même.
Alors, le masque FFP2 est un peu plus cher. Mais si vous voulez, si on compare le prix du masque FFP2 au prix d'un arrêt de travail ou aux conséquences économiques de quelqu'un qui ne va pas travailler, je pense que ça vaut rien du tout.
Merci beaucoup en tout cas, c'était précieux de vous avoir dans RTL Midi. Christian Curel, je rappelle que vous êtes le président des syndicats des fabricants français de masques et directeur général de Prism et que vous conseillez effectivement le port du masque FFP2. On va parler d'un tout autre sujet, ou presque en tout cas, visiblement. Pour passer cette période actuelle, cette morosité ambiante, on est nombreux à vouloir se faire plaisir à table. A tout de suite.
RTL Midi.
RTL Midi.
Avec Agnès Bonfillon.
Pas mal de restrictions pour cette Saint-Sylvestre. Alors, pour contrer la morosité ambiante, est-on de plus en plus nombreux à se dire que finalement, allez, c'est le moment de se faire plaisir à table. Vous êtes nombreux en tout cas à consacrer un budget un peu plus important pour ce repas demain soir. Bonjour Delphine Plisson. Allô Delphine Plisson, vous nous entendez ?
Bonjour.
Bonjour, vous êtes la présidente de la maison Plisson, restaurant, épicerie.
Oui, vous m'entendez ?
Oui, tout à fait, nous vous entendons.
Bonjour.
Bonjour à vous, je le disais que vous étiez la présidente de la maison Plisson, restaurant et épicerie fine. Est-ce que vous constatez, vous Delphine Plisson, une augmentation du panier moyen par rapport aux autres années surtout ?
Alors oui, clairement, on constate quand même que les gens ont de plus en plus envie de se faire plaisir et puis de prendre soin d'eux aussi. En passant, ça compte beaucoup. On n'a pas eu beaucoup de moyens de se faire plaisir cette année. Donc c'est vrai que l'alimentation reste une source assez sûre de réconfort et de plaisir entre amis et en famille. Oui.
Et est-ce qu'il y a un retour des traditions avec des produits bien spécifiques ?
Alors oui, surtout cette année, effectivement, on note un grand retour aux recettes très traditionnelles. On vend beaucoup d'escargots de Bourgogne, de vrais escargots français, parce qu'à la Maison Plisson, on a la chance d'en avoir, mais aussi des cuisses de grenouilles, des pâtés croûtes, du foie gras maison, de belles volailles, etc. On sent qu'il y a une envie de retour au bon sens et au plaisir dans le quotidien, et en particulier en cette période de fête, évidemment.
Alors, on aime manger, évidemment, et ça fait envie, mais on aime boire aussi. Là aussi, vous constatez que les Français ont envie de produits un petit peu plus luxueux cette année, se font plaisir.
Alors c'est sûr qu'en particulier depuis le début du Covid, on a remarqué que l'apéro était devenu un temps important dans le quotidien de tous ceux qui sont en télétravail et où ont besoin de se faire un petit peu plaisir en fin de journée, c'est sûr. Et en cette période de fin d'année, bon, traditionnellement, on vend un petit peu plus évidemment de champagne, mais aussi de vins fins et de spiritueux, en particulier des spiritueux français, régionaux, des vodkas, des gins, des whiskies produits par des artisans dans nos régions, ce qui est assez chouette.
Ça confirme un petit peu le retour aux traditions dont vous nous parliez, au local.
C'est-à-dire qu'à la Maison Plisson, nous, on propose 7000 produits strictement artisanaux, donc strictement alimentaires, et issus du travail de 700 artisans régionaux français. Donc effectivement, on a de plus en plus de clients pour la simple et bonne raison que les gens ont de plus en plus besoin de se réapproprier leur alimentation, de savoir ce qu'ils mangent, et aussi de soutenir à travers leur acte quotidien le travail de tous ces artisans. Donc vraiment le retour au bon sens et au plaisir.
Alors j'imagine que lorsque les clients viennent vous voir, vous pouvez constater que le panier moyen a un petit peu augmenté par rapport aux autres années. Vous pouvez aussi peut-être constater qu'ils comptent faire des réveillons un petit peu plus restreints.
Alors ça, c'est un peu comme l'année dernière, c'est-à-dire que les gens effectivement ont tendance à moins se réunir de façon en étant nombreux, mais ils font plusieurs petits réveillons en général. On a eu des gens qui ont fait plusieurs fois Noël, une fois avec la famille proche, une fois avec la famille un peu moins proche, etc. Et le réveillon, ça se prépare sans doute un peu de la même façon. Il y a des gens qui le font ce soir, d'autres qui le font demain soir. Les gens essayent de moins se réunir, mais par contre de se faire plus plaisir. Clairement, on a des gens qui arrivent avec des grands sourires et qui nous disent, bon, cette fois-ci, on a vraiment envie que ça pétille un peu, et puis de passer cette fin d'année en se faisant plaisir et en pouvant profiter de la vie, en se faisant un bon moment entre amis, même si c'est en petit comité, on va en profiter et on va mettre un peu de bonheur et un peu de joie dans ces derniers jours de l'année.
En profiter, merci beaucoup Delphine Plisson, présidente de la Maison Plisson, d'avoir été avec nous à 12h30. Le réveillon, c'est vraiment un gros morceau, comme on dit, pour vous. Bon courage pour cette dernière ligne droite. Dans un instant, on se retrouve avec vous, amis auditeurs. C'est vous qui prendrez la parole pour débattre, pour discuter de l'actualité. À tout de suite.
RTL Midi.
RTL. Il est 13h01.
Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Agnès Bonfillon.
Et avant de vous rejoindre, amis auditeurs, tout de suite le rappel des titres. Foires, salons, parcs d'attractions et zoos ne seront pas concernés par les jauges imposées à partir de lundi. Le gouvernement apporte une précision. Ils ne seront pas concernés car ce sont des endroits où l'on circule. Paris, mais pas seulement, masque obligatoire à l'extérieur demain dans presque toute l'Île-de-France, c'est-à-dire dans la rue. Désormais, il faudra porter un masque sous peine de décoper d'une amende de 135 €. Elisabeth Borne annonce une amende allant jusqu'à 1 000 € par salarié. Dans la limite de 50 000 €, les entreprises ne jouant pas le jeu du télétravail seront sanctionnées. L'attaquant français de l'Atlético, Antoine Griezmann, a été testé positif au Covid-19, comme 3 autres joueurs. De son côté, le Barça annonce également 3 nouveaux cas au sein de son effectif. La météo, Béguy Broche, on vous retrouve. C'est toujours aussi agréable, hein, côté température, dites-moi.
Et oui Agnès, ce qui est assez incroyable pour un mois de décembre, hier, écoutez bien, l'indicateur de la température moyenne sur la France, en fait c'est une moyenne entre les minimales et les maximales, était de 12,6 degrés. C'est déjà exceptionnel, mais on n'est pas sur un record puisque la température moyenne de la journée la plus douce, c'était 14,7 degrés le 16 décembre 1989. Mais cet après-midi, on va encore atteindre des valeurs remarquables. Je rappelle que la moyenne à cette période de l'année au nord, c'est 7 degrés normalement pour les maximales, 10,5 degrés au sud. Il fera